VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 10h en temps universel. Des élèves survivants de la fusillade de Floride ont annoncé hier qu'ils manifesteraient à la fin du mois de mars à Washington pour un contrôle plus strict sur les armes à feu, un débat récurrent que les États-Unis échouent régulièrement à faire avancer. Le couple chez lequel vivait depuis novembre, Nicolas Cruz, auteur de la tuerie dans un lycée de Floride, a décrit dans une interview publiée dimanche un jeune homme bizarre qui n'avait à aucun moment laissé paraître ses tendances à la violence. Donald Trump a affirmé dimanche que la Russie avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous à semer le chaos aux États-Unis, critiquant les nombreuses enquêtes et auditions menées sur ce dossier. Le FBI passe trop de temps à enquêter sur les interférences russes dans l'élection de 2016, a également affirmé le président américain qui a critiqué la police fédérale pour n'avoir pas su empêcher la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée mercredi en Floride. Les trois principaux candidats à l'élection présidentielle mexicaine de juillet prochain ont lancé dimanche leur candidature lors de plusieurs rassemblements dans la capitale. Actuellement en tête des sondages, le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador, âgé de 64 ans, fait figure de favori. Les secours iraniens ont repris ce matin les opérations de recherche de l'avion de ligne portée disparu depuis dimanche alors qu'il survolait une région montagneuse du sud-ouest de l'Iran. Les autorités iraniennes avaient suspendu les opérations de recherche à cause de conditions météorologiques difficiles. Les autorités estiment que l'avion, qui avait à son bord 66 passagers, s'est écrasé et tous ses passagers sont présumés morts. VOA Afrique. Au Zimbabwe, le dirigeant de l'opposition Morgan Tsvangirai sera enterré demain dans son village natal à Buera. C'est à 250 km au sud de Harare. Il est mort mercredi à l'âge de 65 ans d'un cancer du côlon. La dépouille de l'opposant historique à Robert Mugabe est arrivée samedi à l'aéroport d'Harare en provenance d'Afrique du Sud où il est décédé après une hospitalisation. Au Togo, pouvoir et opposition se retrouvent aujourd'hui autour de la table de négociation pour tenter de résorber 6 mois de crise politique. Le régime de Faure Gnassingbé fait face à une très forte contestation populaire qui a plongé le pays dans l'instabilité. Eric Manirakiza.
Le rétablissement de la constitution de 1992 qui prévoyait 2 mandats présidentiels, la transition politique au Togo et les réformes électorales constituent les points essentiels de ces assises. La coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir unir sont représentés par 7 délégués. La participation du gouvernement devrait être discutée durant le dialogue. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'un des facilitateurs de cette crise, va accompagner l'ouverture des discussions. L'ONU, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis à Lomé ont salué la tenue de ce dialogue. Les acteurs politiques togolais sont encouragés à travailler de bonne foi pour aboutir à un consensus. Ces dernières semaines, l'entourage de Faure Gnassingbé a répété dans la presse locale qu'il ne serait pas question de discuter du départ immédiat du chef de l'État ni d'un engagement de sa part à quitter le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les Togolais sceptiques et critiquent la tenue d'un énième dialogue. Depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90, une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à Lomé sans jamais déboucher ni sur une alternance politique ni sur un changement majeur.
La justice nigérienne a libéré 475 nouveaux membres de Boko Haram à l'issue des procès de masse. La majorité des personnes inculpées n'a pas été condamnée faute de preuves suffisantes. Mohamedou Mfa.
D'après le ministère de la Justice, des centaines de membres présumés de Boko Haram ont comparu la semaine dernière devant un tribunal installé dans une base militaire à Kainji, dans le centre du pays. Les personnes libérées seront prises en charge dans leurs états d'origine pour une réhabilitation appropriée. Le tribunal a aussi ordonné à ces états de leur fournir une réhabilitation dans un centre approprié avant qu'ils ne retrouvent leur famille. Les personnes atteintes de troubles mentaux ou avec des problèmes de santé doivent également recevoir des soins médicaux appropriés. La majorité des procès, les premiers du genre au Nigeria, se sont déroulés à huis clos, entraînant les critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours.
Prochaines infos dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.